salut à tous et bienvenue au podcast du Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour, bonsoir.
De notre expert jeu de cartes Mordren.
Bonjour.
Et de Ben, le survivant, n'est-ce pas?
Ouais. Salut à tous.
Ça va, les nuits, tranquille?
Bah ouais, ça se passe toujours bien. Ça se passe plutôt bien, ouais, on n'a pas trop à se plaindre.
Bon, alors avant de commencer le sommaire de l'actualité cette semaine, juste une petite annonce, finalement non, pas de test de Red Dead cette semaine, pourquoi? Parce que putain, ce jeu, qu'est-ce qu'il est long, quoi. Ça fera peut-être partie des points négatifs du test, parce qu'il y a certains passages, on va dire, que pour le moment je trouve dispensables, mais on en reparlera plus tard si vous voulez bien. Alors, au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera du retour de Command & Conquer. On enchaînera ensuite sur Limbo. Nous évoquerons également The Long Dark, Obsidian et Inixile qui ont été rachetés. Putain de bordel de merde, qu'est-ce que c'est cette news de merde? On évoquera également Microsoft qui aurait apparemment dans ses projets de lancer, de se lancer dans une stratégie un peu osée, on va dire. Je parlerai surtout, hein, je vous le dis tout de suite, de Blizzard, la stratégie de l'échec. Et enfin, on terminera avec Sony, hein, qui sera absent de l'E3. L'annonce coup de poing de la semaine, n'est-ce pas? On ne s'y attendait pas vraiment, et je crois qu'on sera tous d'accord plus tard pour dire merci Sony. Allez, c'est parti. On va commencer avec une note d'espoir, n'est-ce pas? J'avais évoqué il y a pas longtemps la possibilité d'une sortie d'un remaster, remake, on savait pas trop, du premier épisode de la saga de RTS, Command & Conquer. Eh bien ça y est, on a eu donc une officialisation par Electronic Arts, il y aura donc bel et bien un remaster du premier Command & Conquer, et ce sera fait par le studio Petroglyph. Studio qui, c'est important de le noter, comporte pas mal de personnes qui ont bossé sur la série Command & Conquer, et ma foi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ou pas. Alors, pourquoi je dis ou pas? Parce que Petroglyph, c'est un studio, si vous voulez, j'ai acheté un de leurs RTS qui s'appelle Forge Battalion, qui est un RTS qui a été laissé à l'abandon très peu de temps après le lancement de son accès anticipé. Et franchement, j'en ai pas un super souvenir, c'est le cas de le dire. Alors après, ils avaient sorti un autre RTS avant qui apparemment avait eu plus de retours critiques positifs, qui était Grey Goo. J'y ai pas joué, donc je ne m'exprimerai pas dessus. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu de Forge Battalion, ne m'inspire pas plus confiance que ça. J'espère sincèrement que c'était juste parce qu'ils avaient pas beaucoup de moyens pour leur jeu en accès anticipé. Ils ont fait un truc pas terrible, quoi, on va dire. Et que, pour le coup, avec les financements d'Electronic Arts, ils vont réussir à sortir quelque chose d'assez cool. Bon, surtout que après, honnêtement, on leur demande juste de faire le même jeu en plus beau, quoi. Donc,
oui, c'est
ça.
A
priori, ça devrait pas être non plus très compliqué, quoi.
Je suppose que le fait que tu sois cadré par le gameplay d'un jeu qui est ancien et qui est apprécié, ça te met vraiment sur des rails, en fait. Donc, je suppose quand même que t'as une base qui est déjà préétablie. Moi, je t'avoue, je suis assez d'accord avec toi, je suis un peu dubitatif, parce que... alors moi, pour le coup, le seul jeu auquel j'ai joué deux, c'est Star Wars Empire at War, que j'aime pas spécialement. Alors après, c'était leur premier jeu. Hein. Donc, il y a certainement eu de l'évolution depuis. Après, je suis quand même plutôt rassuré par le fait que, voilà, effectivement, t'es dans un carcan bien établi du fait que, bon, bah, il s'agit quand même d'un remaster. Et du coup, Rick qui dit remaster dit a priori gameplay quasi un pour un. Donc, a priori, ça devrait pas trop poser problème, je suppose.
Alors, je note quand même le sens de l'ironie d'Electronic Arts qui allait chercher les mecs qu'ils ont virés il y a quelques années pour leur dire de refaire le même jeu. Je pense que on appréciera beaucoup l'ironie de la chose.
La fille de Pétro n'a pas de limite. Hein.
Bon, les mecs, on vous ressort du placard, on enlève la naphtaline, si vous pouviez ressortir le jeu, mais ça serait très urbain de votre part, quoi.
Command & Conquer, c'est celui-là où il y a les babes dans le jeu, ou bien c'est dans Alerte Rouge, parce que je confonds les deux séries?
Ah bah, c'est le même univers, Alerte Rouge, Command & Conquer.
Okay.
C'est juste qu'il y en a un qui se déroule grosso merdo dans le futur, et l'autre qui est une uchronie, en fait. Mais oui, c'est... Disons que celui-là, en l'occurrence, c'est pas celui où il y a les babes. Désolé à TH de te décevoir. Mais les Red Alert, justement, c'est là où il y a Tanya, notamment. Oui.
Ils sont en train de se racheter une conduite, en fait, Electronic Arts, après leur fiasco d'annonce de Command & Conquer Mobile à l'E3, en fait.
Ça serait bien que Blizzard suive leur exemple. On y revient tout à l'heure.
Mais en fait, ils auraient... Electronic Arts, ils voulaient plus faire chier avec cette licence-là, ils auraient dû juste se taire, quoi.
Bon. On va enchaîner ensuite sur Limbo. Alors, Limbo qui va avoir droit à ce qu'on appelle un D-Make. C'est quoi un D-Make? Ben, c'est tout simplement un exercice que je trouve très intéressant qui consiste à faire un jeu récent sur une ancienne machine. En l'occurrence, la machine en question, c'est le Commodore 64. Et je dois avouer, je vous mettrai un lien, que le travail est assez impressionnant. Enfin, les mecs ont dû vraiment se trouer le cul pour réussir à faire ce rendu-là sur Commodore 64. Bon, en même temps, ils ont choisi le bon jeu. Hein. Je veux dire, Limbo, c'est un jeu qui est essentiellement noir et blanc. Donc tout de suite, ça aide pas mal pour essayer de reproduire cette ambiance-là sur Commodore 64. Mais en tout cas, le travail est assez impressionnant. Je vous mettrai ça dans les liens de l'émission et ma foi... Chapeau.
Bah, ça reste quand même assez impressionnant pour la Commodore 64 parce que la taille des sprites elle est quand même assez imposante. Surtout quand tu vois les, par exemple, entre guillemets les boss, même si c'est pas vraiment des boss dans le jeu, qui sont assez grands. Et alors qu'on sait que la Commodore 64 avait du mal justement à gérer tout ce qui était la taille des sprites et tout ça. Mais par contre, ce qui est intéressant vraiment dans les D-Make, c'est que les gars ne trichent pas en fait. On essaie de faire le son comme il était à l'époque, le visuel comme il était à l'époque. Et on sait des fois qu'il y a certains jeux qui sont, par exemple, estampillés 8 bits, mais sur l'aspect, par exemple, sonore, ils trichent parce que le processeur, par exemple, de la NES ou de la Super NES n'était pas assez puissant. Et du coup, ils se font quelques kiffs en mettant des trucs actuels. Là, ce qui est sympa, c'est vraiment que ça respecte la puissance du hardware de la Commodore 64. Et ce qu'ils ont réussi à faire, quand même, c'est assez cool. Et puis, honnêtement, hein, moi, entre ce jeu-là et puis le vrai, j'ai pas vu de différence, quoi.
Un tir.
Tu exagères.
Non,
tout,
mais oui.
Un tout petit peu.
Non, mais c'est non. Juste pour souligner que le jeu de base est simple visuellement, mais c'est quand même un jeu intéressant à faire. Ça veut pas dire que c'est nul, tu vois.
Non, mais ce que je trouve intéressant aussi dans la pratique, c'est cette idée qu'on va aussi essayer de tirer la quintessence de ce qui faisait le gameplay de ce jeu-là. Mmh. Par exemple, sur les D-Make de jeux en 3D ou ce genre de choses. Ça fait des choses assez drôles parfois.
Ouais.
Enfin voilà. On va maintenant enchaîner, Morren, sur une news d'un jeu auquel tu ne joues plus depuis un certain moment déjà. Mais ouais. Peut-être que, va savoir, ça t'incitera à t'y réessayer. C'est The Long Dark qui revoit un peu ses ambitions à la hausse depuis qu'ils ont embauché pas mal de gens.
Ouais, c'est ça. Alors, The Long Dark, pour resituer, c'est un jeu qui a été kickstarté il y a fort, fort longtemps, et qui commence à peine, en fait, à tenir ses promesses de jeu de survie avec un mode narratif très poussé. Un petit peu ce qu'a fait, d'ailleurs, récemment Subnautica. Sauf que eux, pour le coup, ça fait des années et des années qu'ils sont en développement. C'est un jeu, d'ailleurs, qui est sous format épisodique. Je sais plus si c'est 5 épisodes, mais à l'heure actuelle, il y en a 2 qui sont sortis. Mmh. Et le troisième était attendu pour décembre. Alors, il y a une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que le troisième épisode ne sortira pas en décembre. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va sortir. Mais la bonne nouvelle, c'est que les ambitions du studio ont été revues à la hausse, comme tu dis, parce que il se trouve, bon, bah, c'est fâcheux, il y a eu un certain nombre de fermetures de studios
récemment,
et notamment à Vancouver, puisque le studio Interland Games est basé à Vancouver.
D'ailleurs, juste, on n'a pas fait la news cette semaine, mais notez que c'est RIP Telltale définitif.
Hein. Ouais. Et du coup, c'est le studio de Capcom Vancouver qui a fermé ses portes récemment. C'est un tout petit studio Interland Games, mais ils ont quand même énormément grossi grâce à l'emploi de 6 personnes supplémentaires, notamment 2 animateurs, et ils ont racheté un certain nombre d'équipements de motion capture qui étaient tout neufs d'ailleurs, qui appartenaient à Capcom Vancouver.
Donc ils ont fait une super bonne affaire pour le coup.
Non, ils ont fait les soldes, ça s'appelle.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant qu'ils ont tous ces nouveaux développeurs, ils se sont dit, maintenant on est capable de scinder en deux notre équipe. D'un côté, les gens qui vont travailler sur le mode aventure, donc le mode narratif, et de l'autre, le mode bac à sable, puisque bon, c'est un jeu de survie, il y a aussi, et d'ailleurs c'est la première version du jeu qu'on a pu tester, c'est le mode bac à sable, donc le mode survie classique, qui va du coup avoir son équipe dédiée. Les 2 premiers épisodes, c'était déjà prévu depuis longtemps, ils vont les faire en format Redux, c'est-à-dire qu'ils vont revoir un certain nombre de méthodes de gameplay sur la base de ce qu'ils vont faire dans l'épisode 3. Du coup, ils ont tout repris d'un point de vue animation.
Doublage aussi.
Voilà, doublage aussi. Et du coup, l'épisode 3, ça sera pour plus tard. Mais il y a quand même plusieurs bonnes nouvelles là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont perdu leur emploi et qui ont de nouveau un emploi grâce à Interland Games. Et le studio, du coup, grossit et a des ambitions à la hauteur de ce qu'ils veulent faire pour plus tard. Donc c'est plutôt cool.
On espère juste qu'ils reverront pas leurs ambitions trop à la hausse non plus.
Faut faire attention quand on grossit un peu vite, surtout quand t'es un développeur qui travaille en effectif réduit, faut faire attention à pas que la masse salariale commence à excéder un petit peu les capacités de paiement, quoi.
Non, mais même pas que la masse salariale.
D'avoir des objectifs un peu trop hauts et voilà.
Ouais, c'est ça, tu vois. Là, quand même, ils parlent de refaire plein de choses en même temps.
Ouais.
J'espère qu'ils vont pas s'enfermer dans une spirale où ils vont commencer à retravailler des trucs. Et puis, au final, tu sors pas les choses, jeu, il commence à se faire oublier, et ça se vend plus en accès anticipé, et rip, quoi.
C'est la peur que j'ai à l'heure actuelle, c'est que le jeu soit en train d'énormément perdre en vitesse. On va pas se mentir, hein, il avait pas non plus explosé Kickstarter au moment de son lancement en campagne participative, qui c'était en octobre 2014, donc ça commence vraiment à dater, hein. Il avait fait 250 000 dollars canadiens. Donc c'était pas non plus
bon,
voilà,
après il est longtemps resté dans le top voilà. Gens d'accès anticipé sur Steam, donc il s'est
mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'il fasse attention à pas trop avoir les yeux plus gros que le ventre, parce que effectivement c'est une bonne idée sur le papier. Après, est-ce que c'est vraiment faisable dans leur feuille de route et avec les moyens qu'ils ont à l'heure actuelle, que j'ignore, hein, bien sûr, faut voir.
Bon, Maureen, tu vas maintenant passer à la news qui va me briser le cœur. Espèce de monstre.
Ouais.
Tu vas nous parler de Obsidian In Exile.
Ouais, on n'en avait pas parlé à l'époque parce que c'était à l'état de rumeur. Il se trouve que la rumeur s'est avérée. Obsidian fait partie des nouveaux studios qui appartiennent à Microsoft. Et à cela s'ajoute In Exile. Alors pour resituer un petit peu pour ceux qui suivraient pas spécialement, In Exile c'est notamment les papas de Wasteland. Avec donc Brian Fargo à sa tête, ils ont beaucoup profité, on va dire, du lancement, du financement participatif, avec notamment Wasteland 2, Torment...
Pillars of Eternity, pour
exactement.
Obsidian, voilà. Enfin, la renaissance, on va dire, du RPG en vue isométrique, tout simplement.
Exactement, et donc Obsidian, comme tu l'as dit, c'est Pillars of Eternity, c'est Tyranny également... Et il se trouve que à l'époque où la Xbox One allait se lancer, était en préparation pour son lancement, Obsidian a travaillé pour une exclusivité qui n'est jamais sortie pour le compte de Microsoft, qui s'appelait Stormlands, un projet de RPG. Et au final, bon, le jeu a été annulé et ça a mis énormément dans la merde le studio, qui a fini du coup par se lancer sur Kickstarter pour essayer de survivre. Bon, l'histoire leur a donné raison. Le fait est que maintenant, ils se font racheter par Microsoft, donc ils continuent son petit marché, hein, parce que on se rappelle qu'à l'E3, ils avaient annoncé 5 rachats de studios, et donc voilà, ça fait 2 studios supplémentaires dans l'escarcelle de Microsoft Studios. Donc c'est 2 grands noms du RPG PC, pas vraiment console, donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Bon, alors, en vrai... Je suis pas plus attristé que ça, pourquoi ? Parce que, de toute façon, au vu des dernières nouvelles, le Pillars of Eternity 2, c'est une catastrophe au niveau des ventes. On a notamment, tu sais, eu des retours des backers sur Fig, qui est, je rappelle, un système de financement où il y a des retours sur investissement.
Mmh.
Et au vu des retours sur investissement, Pillars of Eternity 2, c'est 150 000 exemplaires à tout casser. Mmh. Voilà. Donc, c'est un four. In Exile, ils ont exactement le même problème avec tous les jeux qu'ils ont sortis récemment. Mm. Donc de toute façon, c'était deux studios qui n'allaient pas bien. On le savait.
Mm.
Ce que ça m'inspire déjà, premier point, bon, c'est l'échec du financement participatif pour moi. Parce que c'est quand même deux acteurs majeurs du financement participatif. Bon, alors qui ont réussi à sortir leur jeu, hein, mais qui à chaque fois ont eu des soucis au moment de sortir leur jeu. C'est-à-dire que les jeux n'étaient pas forcément toujours polish, etc., où les ventes ne suivaient pas, où le marketing ne suivait pas, parce qu'il n'y avait pas le budget pour faire le marketing, ce genre de choses.
Mmh.
Donc, pour moi, déjà, ça marque la fin d'une certaine époque. Voilà. En tout cas, c'est deux grands noms qui sont plantés. Bon, après, il y en a qui ont réussi. Hein. Par exemple, Larian se porte très bien, ce genre de choses. Mmh. Mais vous voyez, même un gars qui a réussi, comme Sven, le patron de Larian, lui, il dit, nous, ça a cartonné, parce que je rappelle que Divinity Original Sin 2, il est resté je sais pas combien de mois en tête des ventes de Steam, donc c'est un vrai carton pour le studio. Pour le coup, c'est un vrai contre-exemple. Mais même ce gars-là, tu vois, il dit que les coûts de développement deviennent tellement importants que même nous, on n'est pas à l'abri, enfin, si jamais il y a un échec financier à un moment ou à un autre, on n'est pas à l'abri de se retrouver à nouveau dans la merde, tu vois. Mmh. Et donc, moi, finalement, que ces deux studios se fassent racheter, ça ne me surprend pas plus que ça, et surtout, bon, il y aurait pu y avoir pire, hein. Je veux dire, Microsoft est pas spécialement connu pour être tyrannique avec les studios qu'ils rachètent, hein. C'est même plutôt l'inverse qu'on leur reproche en général, c'est-à-dire qu'ils leur laissent faire un peu n'importe quoi. Mais par contre, c'est peut-être ça qui va poser problème, c'est que Obsidian et InXile, c'est pas spécialement des studios qui sont spécialement connus pour bien gérer leur budget, tu vois. Mmh. Surtout Obsidian, qui se fait casser en deux par Chris Avellone depuis qu'il est parti du studio. Il chie à la gueule de son ancienne boîte, Chris Avellone. Il a deux, trois comptes à régler avec le management, en fait. Il a même envoyé un tweet à Phil Spencer pour lui dire « En fait, vous allez racheter cette boîte, je vous conseille de faire gaffe avec le management, parce que autant les employés sont géniaux, par contre, le management, c'est une catastrophe. Hein, » Donc voilà.
Une vraie balance. Hein.
Ah oui, mais, ah non, mais j'ai suivi ça de loin, mais ça fait des mois qu'il déballe son lynchal avec Obsidian. Et apparemment, ouais. Ça n'a pas été des années très heureuses.
Ah, mais lui, ça doit être le genre de mec qui rentre dans un commissariat. Oui, bonjour, monsieur l'agent. Alors, écoutez bien, ma voisine, la petite vieille, là, elle vend de la drogue. Mon voisin est... enfin, c'est le mec qui dénonce, tu vois, alors que Microsoft, il lui a rien demandé, quoi.
En tout cas, c'est des méthodes qui sont plutôt connues et confirmées, notamment dans le bouquin de Jason Schreier, que je cite régulièrement en ce moment, qui raconte effectivement que Fergus Urquhart, qui est donc le cofondateur d'Obsidian, est pas toujours réputé pour avoir les bons choix, notamment le lancement sur Kickstarter de Pillars of Eternity. Il a fallu que ça soit des chefs de projet qui insistent lourdement pour se lancer. Alors bon, heureusement, ça s'est bien passé pour eux.
Ouais, parce que pour le coup, ça leur a permis de survivre. Par contre, parce que même pour le coup, ça leur a permis, c'est un échec... Ouais. Un échec entre guillemets, dans le sens où ça leur a permis de survivre, déjà de pas fermer la boîte, parce qu'ils étaient à deux doigts de fermer à l'époque.
Ah oui, oui, c'était
et
ça.
De survivre suffisamment de temps pour attirer l'attention d'un gros éditeur pour qu'il se fasse racheter. Et là où je dis que c'est probablement Microsoft, c'est pas le plus mauvais choix, c'est surtout que ça aurait pu être un truc dégueulasse comme Electronic Arts, ou là pour le coup merci ou pire Activision, tu vois. On voit ce qui se passe avec Blizzard en ce moment, enfin j'y reviendrai tout à l'heure. Non mais je sais, je tease mais j'ai un peu les boules contre Blizzard en ce moment. Donc,
non mais franchement, je pense que c'est quand même Electronic Arts qui est pire qu'Activision, parce que vu tout le nombre de studios qu'ils ont enterré depuis le début de leur carrière.
C'est le serial killer.
Ah, c'est le boss final des jeux vidéo, tu vois, c'est lui. Pour les développeurs.
Alors par contre, là où je suis pas joisse, moi, c'est que déjà ça veut dire plus de jeux Obsidian et InXile sur GOG, donc je suis tristesse, mais surtout ça veut dire sur et c'est là où là ça me désole, c'est que ça va être des jeux sur le store de Microsoft, et là je suis désolé, je vous adore, mais allez vous faire foutre.
Et juste pour ça, le mec il veut pas jouer sur le...
non mais sérieusement, les gens, juste une fois pour tester, ouvrez le store de Microsoft sur PC, essayez genre, je sais pas moi, de jouer à Sea of Thieves, essayez de le télécharger, et vous allez voir l'espèce de grosse merde que c'est, quoi. Mais genre, une merde avec un M majuscule, tu vois.
Microsoft.
Non mais c'est une atrocité d'ergonomie, déjà. Le téléchargement, ça marche pas bien, enfin, c'est nul à chier. Et c'est d'autant plus incompréhensible que ce sont les mecs qui ont fait l'interface de la Xbox, tu vois, c'est un truc qui est plutôt bien foutu, et tu te dis, mais comment ces mecs-là ont pu faire un truc aussi dégueulasse sur PC? Bon, déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un autre point qui me pose problème, c'est que ce rachat, pour moi, il marque très clairement la volonté de Microsoft de remettre en avant le store sur PC. Et alors, on va me dire, oui, mais tirant, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils vont bosser dessus. D'ailleurs, Phil Spencer, il a fait une annonce, là, récemment, pour dire, oui, je reconnais que c'est un peu dégueulasse.
mais lui, Microsoft. Je comprends pas comment Microsoft, il le vire pas, parce qu'à chaque fois, il ouvre sa bouche, tu vois, pour vous dire, ouais, franchement, Sony, vous êtes les meilleurs, Nintendo, vous êtes trop
forts. Faut à moitié pardonner.
Non, mais surtout, il dit derrière, mais vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, on va nettoyer tout ça. Ça montre que Microsoft veut se recentrer un peu sur le PC. Et en même temps, je veux dire que c'est Windows qui leur apporte des pépettes, donc ils auraient tort de se priver. Hein. Le truc, c'est que pourquoi moi je vois ça d'un mauvais œil, c'est que je rappelle que Microsoft, enfin c'est quand même un créateur d'OS, tu vois. Mmh. Je vais pas vous rappeler à quel point les questions de position dominante
comment ils ont pris
peuvent
cher,
être
ouais.
Assez problématiques. Et oui, et comment ils ont pris cher pour Internet Explorer. Mmh. Et autant, tu vois, moi, je vois très bien, d'un très bon œil la concurrence sur PC quand c'est une boîte comme Electronic Arts ou quand c'est des projects ou voilà. Enfin, quand c'est des boîtes, tu vois, qui lancent leur propre store, j'ai aucun souci. C'est une concurrence qui saigne pour Valve et moi j'ai aucun problème, je suis pas du tout un fanboy de Valve et je sais que certains de nos auditeurs me le reprochent assez. Autant quand c'est Microsoft qui commence à s'intéresser aux jeux sur PC, tout ce que ça peut avoir comme implication, notamment sur le fait qu'ils vont refermer leur plateforme, tu vois, qu'ils vont faire en sorte qu'ils puissent pas lancer les jeux en dehors de Windows 10, parce que, ah oui, mais c'est ça aussi, les jeux Obsidian et Exile sur Windows 7 ou Windows 8, oubliez, hein, ça sera des exclus Windows 10, comme tous les jeux Microsoft, et vous irez vous faire foutre, et vous aurez de la chance si ça sort sur Steam, en plus. Donc voilà, moi je vois d'un très mauvais œil cet appétit qu'a Microsoft pour le PC, parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire derrière, comme saloperie, pour miner la concurrence sur la plateforme. Voilà, ça me fait un peu froid dans le dos, on va dire. Mais d'un autre côté, c'est parfaitement raccord avec la stratégie qu'ils ont dévoilée récemment, avec cette espèce d'idée que Xbox, finalement, c'est plus une console de jeu, c'est une marque. Ouais. Tu vois, oui. C'est, et on va le voir d'ailleurs avec la news suivante. Mais avant ça, Adia, je crois que tu avais quelque chose à rajouter.
Oui, parce qu'un grand sage qui s'appelait Don Matrick t'aurait dit, si tu ne veux pas jouer sur PC, tu joueras sur Xbox One. Enfin, c'est ce qu'il avait dit au début de la génération avec si vous n'avez pas envie de jouer connecté à Internet, vous avez une Xbox 360. Mais voilà. Franchement, moi, pour cette news-là, moi, je suis plutôt content parce que notamment pour Obsidian, parce que c'est un studio, franchement, quand tu regardes ces jeux, c'est un peu des jeux dégueulasses en termes d'animation, c'est pas des jeux sexy, quoi, pour le grand public. Là, je me dis peut-être qu'avec Microsoft, il y aura pas que la thune qui va être derrière, il y aura aussi un suivi qualitatif, c'est-à-dire que Microsoft va mettre un QA pour leurs jeux afin de les rendre plus ergonomiques, un peu plus vendeurs. On sait qu'Obsidian, ils travaillent vachement sur l'écriture, et s'ils peuvent garder ce côté-là et se concentrer sur un moteur un peu plus solide et avec des plus belles animations, rendre un jeu vraiment, voilà, commercialement plus abouti, qui touchera peut-être plus de monde, tout en gardant leur écriture. Moi, je dis que ça peut être intéressant pour un studio comme ça, c'est mieux qu'ils fassent ça, qu'ils crèvent, quoi. Après, ouais, c'est vrai que, par contre, pour le PC, ce que t'es en train de dire, ça me fait un petit peu flipper, c'est un petit peu chiant d'avoir ce système un peu, voilà, fermé comme ça.
Bah, surtout qu'on les, ça fait un moment qu'on les voit placer leur bise, tu veux, c'est-à-dire que, par exemple, ils ont changé le système d'installation qui fait que, du coup, maintenant, tu peux plus installer les jeux sur les versions antérieures de Windows 10, et même en dehors de Windows, quoi, c'est-à-dire que ils sont en train de mettre tout en place, si tu veux, pour verrouiller la plateforme. Et moi, je suis désolé, j'ai pas envie de me retrouver avec un Mac, quoi. C'est voilà, j'ai jamais été fan d'Apple, c'est pas pour me le retrouver avec ça sur mon PC.
Après, tu vois, enfin, sur PC, c'est un petit peu chiant parce que t'es obligé d'avoir un compte Steam, un compte Electronic Arts, un compte ceci, un compte cela. Au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu lourdingue, ce truc là quoi.
Bon, alors par contre, pour le coup, il faut reconnaître une chose à Microsoft, c'est que visiblement leur histoire de Xbox Game Pass, ils se donnent les moyens, en tout cas, pour avoir un catalogue de jeux assez conséquent. Ça fait quand même pas mal de studios qui rachètent, hein, comme tu le disais, Morgan, tout à l'heure.
Ouais.
Mais pour le coup, Ben, il y a quelque chose qui est aussi raccord avec ses stratégies, alors qui a pas été annoncé, mais apparemment, c'est pas officiel. Hein, ça, on parle de rumeurs, et c'est pas tellement de la rumeur dont on va parler là, c'est surtout de ce que ça pourrait dire d'intéressant sur la stratégie de Microsoft. C'est cette histoire de console Microsoft sans lecteur, en fait.
Exactement, donc comme tu l'as dit, il y a une rumeur qui dirait qu'il y a une Xbox qui va sortir l'année prochaine sans son lecteur Blu-ray. Qui dit absence de lecteur Blu-ray dit sûrement une belle baisse de prix. Donc attaquer un autre marché, parce qu'on sait qu'aujourd'hui ils sont quand même très en retard par rapport à la PS4. Donc ils essaient, ils cherchent des moyens de remonter un peu tout ça, quoi.
Alors, a priori, c'est quand même donc une console Xbox One, donc il serait donc dans la gamme Xbox One telle qu'on la connaît, c'est-à-dire Xbox One, Xbox One S, Xbox One X. Donc ça serait pas la nouvelle Xbox.
Non. Ouais, mais si tu commences à le faire cette génération, c'est pour c'est préparer ça. Pour la prochaine.
Bien sûr, on est d'accord que pour moi ça c'est un produit qui vient tâter le marché. Qui vient voir si ça se vend à un prix réduit, hein, parce que clairement, comme tu le disais Ben, ça peut vraiment rogner sur le seuil de prix, et ça peut être extrêmement important par rapport à la concurrence qui est la PS4, mais aussi la Switch, parce que forcément, avec une Xbox One à laquelle t'enlèves son lecteur disque, tu peux potentiellement descendre en dessous du prix d'une Switch.
Ouais, t'es la console donc, la moins chère.
Ouais, alors ok, ça devient des prix similaires, mais l'offre de la Switch, c'est pas la même
Xbox.
Mec qui va acheter une Switch, il s'en fout de la Xbox, quoi. Enfin,
on est d'accord. Après, un gamin qui veut une console de jeu, le parent, ça l'intéresse, le prix qu'elle coûte. Mais effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Mon avis, c'est Microsoft qui vient voir si ça mord à cet endroit-là, qu'il le fait de façon plus intelligente qu'il ne l'a fait au moment de l'annonce de la Xbox One, où on disait que bah c'était ça et pas autrement, où effectivement là c'était vraiment le pire move de la Terre. Si ça mord de ce côté-là, il pourrait se poser une question. Après, je les vois mal abandonner totalement le lecteur de disque, sauf si ça fait un carton, ce qui m'étonnerait très fortement. Tu parlais du Xbox Game Pass tout à l'heure. Le Xbox Game Pass est fait pour une console comme ça. Mmh. Moi, je les vois bien lancer une offre avec la console plus quelques mois d'Xbox Game Pass gratos, quoi. Et ça, ça serait extrêmement intelligent. Il faut voir comment le public répond à ça pour une potentielle succès, enfin un potentiel successeur à la Xbox One, quoi.
En gros, le Xbox Game Pass, ça serait l'hameçon qui serait morte, quoi. On vous donne 12 mois, par exemple, de Xbox Game Pass, tu vois, entre guillemets, offert.
Ouais.
Comme ça, toi, t'achètes la console, et une fois que t'achètes la console, bah, tu peux pas acheter ou revendre de jeux de manière physique.
C'est ça.
Donc, quoi qu'il arrive, t'es bloqué avec.
C'est des abonnements obligatoires. Donc, même si t'offres 12 mois, c'est des gens qu'au final, s'ils veulent jouer, ils sont, maqués à vie avec Xbox One. Ouais.
Ou bien tu la revends, mais dans ce cas-là, tu dis adieu à ton compte Microsoft et...
Exactement.
Et tout le catalogue qui va avec. Mais moi, ce qui serait marrant de voir, ce serait en fait, si ça sort, de voir l'impact que ça a eu, comme, la PSP Go à l'époque. Parce que la PSP Go, c'était une console portable de Sony, qui s'est fait, mais, totalement bâché, qu'il n'a pas eu de succès du tout. C'est une console qui a quand même été boycottée par certains revendeurs, qui voulaient pas la revendre, parce qu'ils ont dit, attends, nous on vend la console, déjà qu'on gagne pas d'argent dessus, on te vend la console, puis après le client on le revoit plus, tu vois, en boutique. C'est quoi l'intérêt? Donc du coup, certains revendeurs, ils étaient là, ils disaient, ah non, non, vous savez, la PSP Go, c'est un peu de la merde, hein. Prenez plutôt celle-là, là-bas, ouais, ouais.
Ça les arrange clairement pas, ces revendeurs-là, hein.
Ouais, et puis, enfin là, je parle des gros, mais le problème, c'est aussi tous les magasins indépendants qui sont en train de crever en France, notamment République, là, c'est en train de d'avoir un carnage en termes de magasins qui est en train de fermer. Est-ce qu'ils vont être chauds pour vendre des consoles comme ça, quoi?
Enfin, de toute façon, les enseignes, faut bien voir une chose, elles font pas de marge sur les ventes de consoles. Le vrai truc sur lequel ils font leur blé, c'est l'occasion. Donc, de toute façon, c'est une machine qui ne sert à rien aux revendeurs.
Ouais, c'est ça.
Mais effectivement, le fait de voir se démocratiser des offres en ligne et des offres par abonnement, ça, pour le coup, ça peut leur faire énormément de mal.
Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui,
le truc, c'est
Xbox...
que...
Vas-y, vas-y.
Ouais, juste, excuse-moi, Ben. Le truc, c'est que je suis pas persuadé qu'encore aujourd'hui, les enseignes physiques aient un poids suffisamment important pour dissuader Microsoft de se lancer là-dedans, et ce d'autant plus que Microsoft a les éditeurs qui poussent au cul pour ce type de modèle économique-là. En plus, il faut bien voir que derrière, pas mal de gens achètent de plus en plus sur des sites comme Amazon, par exemple, et Amazon, lui, en tout cas, à ma connaissance, il a pas une politique de boycott comme un GameStop ou ce genre de choses. Enfin, Amazon, il vend vraiment tout et n'importe quoi.
Ah, c'est, bah, si Amazon, s'il pouvait vendre des êtres humains, il le vendrait. Hein.
Ben, excuse-moi, je t'avais interrompu.
Non, mais c'était exactement le même point. J'allais dire, c'est aujourd'hui, est-ce que Microsoft en a quelque chose à foutre des petits revendeurs? Et est-ce que Amazon ou les gros comme ça font pas déjà 80% de la vente des consoles? Donc, voilà, je suis pas sûr que ça soit ça qui les bloque pour sortir une console comme ça.
Honnêtement, je suis pas sûr que c'est Amazon ou enfin.
Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Faudrait voir des chiffres.
Ouais, je pense que enfin, ça serait intéressant d'avoir des statistiques là-dessus. Mais en tout cas, moi, je passe souvent devant la galerie de mon centre commercial et Micromania. On a beau critiquer, on a beau dire que c'est cher et tout ça. Franchement, la boutique, elle est toujours blindée. Je passe à chaque fois, je dis putain, mais les gens, parez-vous d'ici, tu vois. Chercher un magasin indépendant un peu plus loin là-bas.
Ouais, mais c'est impressionnant.
Après, peut-être que maintenant, vu que c'est Micromaniazing, les gens viennent acheter des goodies ou ce genre de choses-là. Mais vite je vois vraiment beaucoup de gens qui ressortent avec des consoles, avec des Switch.
D'accord,
enfin, je sais pas quelle est la proportion du marché exactement, mais je pense vraiment que pour Micromania, même pour, tu vois, une grande entreprise qui est Micromania aujourd'hui en France, qui a 400 boutiques, je crois. C'est-à-dire, en fait, tu vois une console, et après, la limite, la seule chose que Micromania pourra devenir, ou les autres enseignes, ça serait des vendeurs de tickets, quoi. Tu sais, pour pas que les gens mettent leur carte bleue, bah, ils vont te vendre des tickets, genre, à 20 euros, 30 euros.
Ou alors,
ouais,
des
cartes à payer,
tout
ouais.
Ce qui est, tu sais, goodies, collector, les conneries comme ça.
C'est ça, ouais. Mais ils ont déjà entamé leur transition, hein, parce qu'ils se doutent bien que c'est ça qui va se passer, hein. Et je suis d'accord avec toi, dans un monde comme celui-ci, la seule chose qu'ils pourront continuer à vendre, c'est, un, des cartes prépayées d'abonnement.
Ouais.
Comme ils font de toute façon avec le PSN, etc. Et effectivement, tout ce qui est autre, donc tout ce qui est dans la pop culture, en fait.
C'est ça.
Donc dans l'objet. Mais effectivement, c'est pas forcément très très souhaitable, quoi.
D'ailleurs, ils se touchent un petit peu sur les prix, mais pour revenir sur Microsoft, franchement, les gars, on va pas passer à côté de ça. Crackdown 3, Crackdown 3, disponible le 15 février 2019. On y va ou pas?
Tout le monde l'attendait.
Bizarrement, on l'a pas mis au prompteur de l'émission, donc je me demande pourquoi.
C'est étonnant. C'est étonnant.
Mais quoi, qu'est-ce que les gars, c'est une exclu Xbox qui arrive.
Bah écoute, bizarrement, ils l'ont pas plus montré que ça, donc à votre place, Microsoft qui sort un jeu qui le montre pas plus que ça, je commencerai à me méfier.
Par contre, là, c'est vraiment se contrôler. Ils ont quand même présenté une espèce d'arène multijoueur où vraiment tous les environnements étaient destructibles, mais c'est un mode spécifique en fait, ça a pu t'intégrer dans tous les modes de jeu où avant on vendait le jeu comme on pourrait péter toute la ville quasiment. Là, ça va être vraiment dédié apparemment à une map, une grande map hein, de ce qu'ils ont dit. Mm-hmm. Et on peut vraiment péter tout ce qu'on a envie.
Ah, peut-être qu'en multijoueur, ça vaudra le coup alors, on va savoir.
Ouais, voilà, après Crackdown 3, c'était un jeu qui devait sortir il y a très très longtemps, il a été maintes fois repoussé. Moi, ça me fait un petit peu peur, mais pourquoi pas? Après, ça peut être un truc sympa hein.
Mmh, on verra. Parce qu'on avait vu en tout cas à l'époque, c'était pas enfin bref.
Ouais.
Je vais maintenant enchaîner sur mon coup de gueule. Hein. Il y a des sujets très sérieux dont il faut parler.
Tu vas jeter un coup de froid, tu veux dire ?
Oh !
C'est beau.
Just clap.
Pour
non,
vous
bah,
servir.
Écoutez, je vais parler du suicide de Blizzard. Non, parce que là, je pense qu'on peut, à ce stade-là, je veux dire, il y a un mec qui est venu se faire crucifier sur scène. Donc, je pense qu'on peut lui rendre hommage quand même. On vous en parlait la semaine dernière, Blizzard, ils ont trouvé rien de mieux que de terminer leur conférence BlizzCon en annonçant un jeu mobile. Ce qui est passablement suicidaire quand tu es devant une assemblée de PCistes patentés. Tu regardais un peu l'assemblée, hein, il y avait des barbus, tout ça. Bon, excusez-moi mesdames, c'est vrai qu'il y avait pas mal de dames quand même aussi, faut le dire.
Barbus, elles aussi.
Ils étaient devant un public qui connaît la licence Diablo, qui est fan de Diablo, et Diablo, je suis désolé, c'est une licence PC. Donc annoncer un jeu mobile à des joueurs PC, c'est une connerie. Voilà. Enfin, je pense que n'importe qui ayant deux neurones qui se touchent aurait compris que c'était pas une bonne idée. Hein. Y a pas besoin d'être un génie du marketing pour comprendre ça. Mais eux, visiblement, ça marche pas. Tu vois. Enfin, ils étaient tellement fiers de leur produit, je pense. Mais en vrai, là, je troll pas. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le mec qui était sur scène, tu vois, il était là, on l'avait obligé, etc. Non, non, moi, je suis persuadé que le mec qui était là, il était fier de son machin, qu'il était persuadé que ça allait passer crème. Franchement, mais regardez sa réaction, le mec se décompose en direct. Bon, quoi qu'il en soit, pourquoi je voulais faire un coup de gueule cette semaine ? Alors, disclaimer, je vais parler du bashing qu'il y a eu autour de Blizzard, et je voudrais préciser une chose avant de parler de ça. Ce que je vais dire là, ça ne justifie aucunement les comportements de connards sur Internet qui sont allés insulter des employés, qui réclament qu'on vire des gens, etc. Tout ça parce que on a montré un jeu qui ne leur plaît pas. Hein, disclaimer, ce que je dis là ne cautionne absolument pas ce genre d'attitude que je trouve abjecte, condamnable, et comme l'ont dit certains, c'est des attitudes de gamin.
Non mais c'est... Tu vas pas faire chier des gens qui travaillent sur un jeu, parce que enfin les développeurs c'est comme tout le monde, ils ont besoin de manger. Mmh. Les mecs, peut-être qu'ils pensaient pas faire mal, tu vois, ils ont dit on va sortir le jeu comme ça. Sur.
C'est surtout qu'ils font ce qu'on leur dit.
Oui.
On leur dit de faire, hein. C'est quand même
les mecs,
employés,
ils font juste leur boulot. Toi, je sais pas si tu vas acheter une baguette à sa boulangerie, ton pain est trop cuit. Tu peux aller venir voir la boulangère pour l'insulter, tu vois. Tu vas venir, tu vas lui dire, ouais, je trouve
exactement.
Franchement que votre pain, à la fois, est un peu trop cuit, la prochaine fois, ça serait bien. Et là, c'est la même chose sur Internet, vous pouvez dire, quand les choses ne vont pas, c'est sûr, on peut tous parler. Mais de là, insulter, menacer des gens.
Oui, mais c'est quand même beaucoup plus simple derrière un ordinateur qu'en vrai. Donc,
bah oui, parce
voilà.
Que, parce qu'en vrai, voilà, enfin, il faut quand même porter ses couilles, quoi.
Alors, par contre, là où je vais nuancer le propos ambiant, parce que ça, je suis tout à fait d'accord, c'est condamnable, c'est dégueulasse, et je trouve ça d'autant plus dégueulasse que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je suis dans un métier où je suis au contact du client, et je suis très empathique quand je vois des gens qui s'en prennent plein à la gueule, alors qu'ils en ont pour rien, tu vois, hein, c'est juste qu'il y a des décisions débiles qui sont prises au-dessus, et que, voilà, t'y peux pas grand-chose, hein, désolé. par contre, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec une petite musique qui s'est mise en place, notamment vis-à-vis de celui qui pour moi est désormais mon héros, c'est-à-dire le Red Shirt Guy, n'est-ce pas ? Je trouve ce gars absolument formidable, à savoir le mec qui est venu sur scène et qui a eu les balls de dire en face du développeur de Blizzard, est-ce que votre truc là, c'est pas un poisson d'avril hors saison ? Il y en a qui ont trouvé ça irrespectueux, machin. Écoutez, pour moi, l'irrespect, c'est de présenter un jeu mobile à une audience de PCistes qui ont payé 200 balles un ticket, parce qu'on est d'accord, la BlizzCon, c'est pas gratuit, hein. C'est un événement qui est payant, qui coûte une blinde, et il y a des mecs qui ont pris des vacances, qui sont déplacés depuis l'autre bout du pays, et les États-Unis c'est grand, hein, pour venir à la BlizzCon. Donc ces mecs-là, en gros, qui ne sont pas intéressés par le jeu mobile, on leur montre un jeu mobile qui pour eux est une aberration, si tu veux. Enfin, ils ont un mépris profond pour le jeu mobile et surtout c'est des mecs qui ont faim. C'est-à-dire que la dernière sortie de Blizzard pour Diablo 3, c'est quoi? C'est un putain de perso à 15 balles. Voilà, ça c'est le dernier taf qu'a fait Blizzard sur Diablo 3. Les mecs, ils ont faim. Ils attendent une vraie annonce. Alors peut-être pas forcément Diablo 4, hein, surtout que Blizzard avait tempéré leurs attentes, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'ils s'attendaient, je sais pas, moi, un remaster de Diablo 2, une extension, voire un nouveau perso, je sais pas, tu vois, quelque chose à se mettre sous leurs dents. Et à ce moment-là, on leur présente cette merde en leur disant « Écoutez, nous, chez Blizzard, on est tellement intelligents, on va essayer de vous vendre un truc que vous voulez pas. » Donc du coup, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis désolé, hein, moi, je serai à sa place, je me dis « Attendez, vous foutez de ma gueule. » Enfin, je sais pas, j'ai payé 200 balles le ticket pour la BlizzCon, là. Je me suis déplacé depuis l'autre bout du pays, vous m'annoncez un jeu mobile. Vous foutez de ma gueule. Donc, moi, je trouve que ce gars-là, il l'a formulé d'une manière plutôt polie, plutôt correcte. Enfin, je veux dire, il n'est pas irrespectueux.
Ah oui, c'est ça, il a pas eu d'insulte.
Il a insulté personne, tu vois. Il a fait un bon mot. Est-ce que c'est un poisson d'avril hors saison? Et ma foi, quand tu vois le suicide qu'a fait Blizzard en direct, tu serais presque tenté, effectivement, de te demander si c'est pas un poisson d'avril, quand même.
Non, mais même, enfin, déjà, le mec, il a mis un peu d'humour dans ce qu'il a dit. Et puis, il est pas venu dire, toi, connard, là, c'est quoi ton jeu de merde, tu vois? Il a pas pris non plus de haut. Enfin, il lui a juste posé une question avec un tantinet d'ironie. Mais voilà, c'est pas, il y a pas eu de réaction plus déplacée que ça. Moi, j'ai trouvé même ça plutôt drôle, quoi.
Bon, après, l'humour n'est pas quelque chose d'universel. Je peux comprendre qu'on trouve pas ça drôle. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé irrespectueux. Et surtout, c'est ça que je tenais à dire. Autant je suis d'accord pour dire que tous les connards là qui insultent les développeurs, oui, c'est des gamins. Autant ce gars-là, non, c'est un adulte qui juste se demande à un moment donné si on n'essaye pas un peu d'abuser de son statut de fan pour lui vendre n'importe quoi, en fait. Et c'est aussi là où je voulais en venir. C'est-à-dire que à un moment donné, Blizzard, moi je sais pas, et je parle pas que de Blizzard d'ailleurs, je parle des éditeurs en général, vous êtes bien content de ne plus avoir de journalistes en face de vous qui vous posent des questions un peu chiantes, etc. Vous avez envie d'avoir des conventions avec un public de fans qui hurlent à la moindre annonce aux élèves. voilà, vous voulez des gens décérébrés devant vous qui disent amen à tout ce que vous dites. Sauf que là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, un fan, par essence, c'est passionné. Je suis désolé. Si vous voulez pas des gens passionnés par vos produits, bah justement, sortez des produits, sortez pas des œuvres. Voilà. C'est ce que je voulais répondre d'ailleurs. Je crois que c'est Oscar Le Maire qui a sorti récemment un article. Article par ailleurs très intéressant, hein, je tiens à le dire. Mais où il commence justement par cette remarque de dire que les joueurs ont une nouvelle fois trouvé une manière de s'illustrer avec un comportement de gamin. Bah non, en fait. Enfin, je suis désolé. C'est normal que des gens aient des réactions passionnées. Je veux dire, le jeu vidéo, c'est pas un objet froid. Voilà. C'est des choses qui nous touchent intimement. Et c'est normal, à un moment donné, que des gens qui se sont investis dans une licence, et pas seulement vis-à-vis de l'affect qu'ils ont de l'œuvre, mais aussi vis-à-vis de la communauté qui s'est construite autour. C'est-à-dire que, tu vois, ils ont fréquenté des gens pendant des années. Il y a tout un tas de choses qui font qu'ils ont un affect vis-à-vis de cette œuvre-là. Et donc, moi, je suis désolé. C'est normal, quand on parle d'une œuvre, qu'il y ait des gens qui soient passionnés et qui soient peut-être pas toujours très raisonnables vis-à-vis de ce qui se passe et qui aient envie de dire à l'auteur de l'œuvre en question, quand il se fout ouvertement de leur gueule, allez vous faire foutre. Parce que, par exemple, là, Diablo Immortal, une bonne raison de s'énerver là sur le jeu, en dehors de la réaction primaire, oui, c'est un jeu mobile, etc. D'ailleurs, j'en reparlerai un autre jour du jeu mobile, parce que j'ai 2-3 choses à dire là-dessus, mais là, il faudra faire un podcast de 15 heures. Quand, derrière, t'as le boss de Blizzard qui dit que, pour que Diablo Immortal soit accessible au plus grand nombre, on va faire un jeu tout public, y compris en termes, tu sais, tout ce qui est gore, sang, violence, etc., tu vois. Les mecs, on parle de Diablo, là. La scène du boucher dans Diablo 1, où t'arrives, il y a des gens qui sont écorchés de partout, etc., c'est dégueulasse, c'est immonde, tu peux pas montrer ça à un gosse. Diablo, c'est pas une licence pour enfants, bordel. Vous faites quoi, là, avec la licence? Sortez-le sur mobile, le jeu, je m'en fous. Et par contre, il y a un respect à avoir, tu vois, vis-à-vis de la licence. Diablo, c'est pas Mickey. Hein, tu peux pas faire n'importe quoi avec. Et là, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter.
Ouais, c'était juste pour terminer là-dessus, c'était pour dire que aujourd'hui la communauté de fans, l'industrie voit pas ça comme des fans, mais voit juste ça comme des consommateurs. Mmh. Et c'est tout, en fait.
C'est ça.
Voilà, c'est-à-dire en fait, on est content d'avoir des gens qui vont parler de notre produit en ligne, faire du bouche à oreille. C'est très cool. Mais en fait, ils veulent juste qu'on soit bête et décérébré et acheter tout ce qui sort de chez eux. Alors que, finalement, c'est pas ça, être un vrai fan. C'est pas cautionner tout et n'importe quoi. Faut vraiment que le produit soit quand même qualitatif et qu'il nous plaise, un minimum. Et comme tu l'as dit, si certaines œuvres nous ont touchés à une époque ou à un moment, bah, c'est que, parce que ça fait appel à des trucs un peu plus, tu vois, sensibles. C'est-à-dire que, on n'est pas là à nous vendre quelque chose, un produit, sans âme, parce qu'il y a certains jeux qui ont ce petit truc en plus qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui. Pourquoi on fait des podcasts nous aujourd'hui? Pourquoi certains gens font des vidéos sur internet aujourd'hui? Pourquoi ça apporte autre chose? C'est comme le cinéma, il y a des films au cinéma qui sont calibrés très grand public avec pas beaucoup de fonds, mais ça veut pas dire qu'un film très grand public ne peut pas avoir un minimum de fonds ou bien une analyse. Par exemple, je pense à certains films Disney qui ont des messages. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais trouver où certains films ou certains jeux ont des trucs en plus que n'ont pas le reste de l'industrie.
Bon, on va terminer sur l'annonce coup de poing de la semaine. C'est Sony absent de l'E3. Qu'est-ce qui se passe?
C'est assez étonnant, oui et non, mais ouais, on a appris cette semaine que Sony n'irait pas du tout à l'E3, mais vraiment d'aucune façon. Donc,
c'est-à-dire d'aucune façon. Bon, pas conférence, d'accord, mais sur le salon, il y aura rien?
Il y aura rien du tout.
Donc c'est même pas comme Nintendo qui fait juste un Nintendo Direct et derrière un show floor, c'est Exactement. Là rien du tout, pas de conférence, pas de show floor, rien quoi.
C'est aller vous faire foutre, on mettra pas les pieds. Alors, est-ce qu'ils préparent sûrement quelque chose de leur côté? Voilà, on sait qu'ils ont déjà des conférences, est-ce qu'ils vont plus bosser là-dessus? Est-ce que le 3 ne leur apporte plus assez de choses? C'est une bonne question, on sait qu'a priori il devrait y avoir une nouvelle PS5 d'ici 2020. Est-ce que voilà, ils ont estimé que c'était pas le bon moment pour entre guillemets perdre du temps sur un E3 2019 et préparer un plus gros événement chez eux? Voilà, c'est plein de questions.
Alors juste, je crois que c'est un de nos auditeurs qui il y a quelques semaines nous demandait notre avis justement sur l'E3. C'est Kilitia, je crois, qui nous avait posé la question.
Exactement.
Kilitia qui est en grande conversation en ce moment avec ATH. Putain, ça poste, hein, la vache. Et LKBD aussi. Putain, les mecs, je suis toujours étonné par les pavés que vous postez. Moi, ça me fait plaisir. Je vous le dis, je suis toujours content de voir ça. Alors déjà, bon, moi, je pense qu'il y a une partie, effectivement, où Sony n'a pas de cartouche, en fait, tout simplement. À savoir que ben tous les jeux qu'ils avaient à montrer, ils ont déjà montré. Et ils ont peut-être pas plus de choses à montrer et qu'ils se disent de toute façon Microsoft en face, ils sont un peu dans la même situation que nous, donc autant ne pas perdre du temps sur une conférence, surtout qu'on va se faire défoncer derrière, parce que je rappelle que la conférence de l'année dernière, enfin, c'était pas très très intéressant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Le truc, c'est que il y a plein de gens qui se sont dit oh là là, Sony absent le 3, terrible, etc. Moi, j'ai presque envie de leur dire merci, en fait, quoi.
Bah
putain,
oui.
Mais merci, quoi. On va pas avoir besoin de se lever à 3h du matin pour voir de la merde, quoi.
Enfin, ça, on le faisait plus depuis un moment, quand même.
Oui, non, mais...
C'est vrai qu'on avait arrêté. Hein.
Mais tu sais, t'as toujours la tentation de te dire que peut-être que cette année, Sony va se réveiller, tu vois, un truc. Là, au moins, tu vois, on aura une bonne excuse pour dire allez vous faire foutre, on va pas regarder le 3 cette année.
Est-ce que c'est au dernier E3 que, justement, Sony a fait une conférence en personne où c'était juste de la vidéo? Où il y a quasi personne qui est monté sur scène.
Ouais, il y avait 4 salles différentes pour les journalistes, mais pour nous ça avait aucun intérêt. Et en fait, ils ont montré que des jeux puis de la musique. En fait, ça a commencé par God of War, je crois.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Déjà, c'était assez étonnant par rapport à leurs anciennes conférences, ouais.
Mais moi je pense que Sony n'a plus besoin d'aller à l'E3. Leurs consoles se vendent comme des petits pains par rapport à Microsoft, hein. Je crois que le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 86 millions de PS4 vendus à travers le monde.
Bon, ils ont déjà gagné,
oui. Bon, ça fait un moment.
Ils
ouais.
ont déjà gagné la guerre, entre guillemets, de cette génération. Enfin, ça fait un moment de, même depuis, oui. Enfin, ils avaient déjà gagné, en fait, dès le départ. Microsoft avait fait tellement de la merde. Sony arrivait avec une console moins chère.
Et puis, même là, Microsoft, de toute façon, n'aura pas plus de cartouches cette année. Donc, je veux dire, les jeux qu'ils ont rachetés, c'était cette année, tu vois.
Ouais,
ils en ont racheté encore deux, là. Ils vont pas chier des jeux
oui,
en
Microsoft,
quelques mois, tu vois.
Maintenant, c'est, on attend la prochaine génération.
Microsoft
quoi.
Prépare la guerre pour la prochaine génération, c'est sûr. C'est, je pense que Microsoft,
ouais,
là, ils sont en train de s'armer pour
ça,
proposer ouais. quelque chose de lourd et que le vrai combat, peut-être aura lieu.
L'année prochaine, mais pas cette année, tu
voilà.
vois. Enfin, pas en juin, là, qui va venir. En juin, moi, pour moi, le toit, il va être mort, là, en fait. Hein. C'est un E3 transition, ouais. je pense.
C'est très clairement, oui, on en
enfin, moi, je m'attends pas à grand chose, quoi, tu vois. Ou alors, peut-être, un feu d'artifice de fin de génération chez les éditeurs tiers. Oui. Mais clairement, chez les constructeurs, il y aura, pour moi, rien. Donc, pour moi, Sony a raison. Par contre, là où je vais poser une question. Parce que moi, ce qui m'a étonné, c'est pas que Sony ne fasse pas de conférence. C'est qu'il n'y ait pas de stand Sony à l'E3. Mm. C'est super chelou pour moi. Parce que, certes, ils ont gagné la guerre, on est d'accord. Mais ils ont quand même des jeux à vendre, à présenter, tu vois. Enfin, ils ont Ghost of Tsushima, ils ont The Last of Us 2. Enfin, ils ont des trucs à vendre, tu vois.
Ouais, mais ils ont pas besoin de l'E3 pour les vendre, en fait.
Bon, non, mais attends, si on part par là, ils ont pas besoin de faire la Paris Games Week, pas besoin de faire les...
Ça reste un salon public aussi, l'E3, hein, rappelons-le quand même.
En fait, ce que je trouve super bizarre, c'est qu'ils n'aillent pas juste présenter leur jeu à un salon public, tout simplement, tu vois.
En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pas besoin de cette E3-là pour les vendre. C'est-à-dire que Ghost of Tsushima, on l'a déjà vu deux fois. The Last of Us aussi.
Non, mais c'est une chose de voir les jeux à TH. Les salons, c'est fait pour les essayer, en fait. C'est ça que je veux dire.
Ah, mais ouais, mais Sony peut préparer des rendez-vous avec des journalistes ou des influenceurs tout au long de l'année. Ah oui, bah venez, venez tester.
Oui, mais à ce moment-là, c'est exactement ce que je te disais avant. Alors à ce moment-là, pourquoi tu vas à la Paris Games Week? Pourquoi tu vas à la Gamescom? Est-ce que c'est parce que le 3 finalement est peut-être placé à un mauvais moment dans l'année parce que justement peut-être trop proche de la Gamescom et comme le 3 n'est qu'un lieu pour les annonces, en fait peut-être que c'est pas intéressant d'aller à le 3. En fait, j'en sais rien, tu vois, je pose des questions quoi.
L'interprétation que j'en ai, et ça fait longtemps qu'on en parle, c'est que le 3 est problématique maintenant pour les éditeurs et aussi les constructeurs. Effectivement, c'est un carrefour d'audience et c'est un carrefour d'annonces. Et le simple fait que ça soit un carrefour d'annonces, le joueur, en fait, qui suit ça de chez lui, il est là et il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations qui lui arrivent à la seconde. Et au bout d'un moment, en fait, en tant qu'éditeur et en tant que même constructeur, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine pour moi de dépenser des centaines de milliers de dollars pour être présent et finalement avoir le rayonnement de mes annonces quelque peu amoindri par le fait que ben il y a tout le monde qui shoot en même temps. Et ça fait longtemps qu'on voit que Sony prépare des choses qui lui sont complètement personnelles. Les PlayStation Experience sont évidemment des bons exemples. Pour moi, c'est la volonté, encore une fois affichée, d'un éditeur de montrer: écoutez, moi, les mecs, j'aime bien créer l'événement, mais j'aime bien que l'événement, il soit à moi.
Non, mais c'est ça.
Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Sony. Et je serais pas surpris qu'il y ait une PlayStation Experience pas trop loin de l'E3, que ça soit avant ou après, mais que ça soit le moment où les mecs, taisez-vous, c'est à nous de parler. Et il y a aussi le fait que, on le sait, la PS5, elle arrive, et l'objectif, évidemment, c'est de placer ses billes sur ces choses-là maintenant. Et est-ce que, finalement, Sony est pas en train de décaler, justement, un gros barnum au moment où il faudra parler de Ghost of Tsushima, etc., et que ça sera aussi le moment de dire, écoutez, les mecs, voilà, dans 6 mois, 1 an, voilà ce que c'est la PlayStation 5. Et au final, est-ce que juin, c'était la bonne période pour annoncer ça? Je suis pas certain. Surtout si ça sort plutôt 2020.
Déjà, la PS4 n'a pas été annoncée pendant l'E3. Elle a été annoncée dans une conférence faite par Sony exclusivement.
Ah oui, je m'en souviens très bien. Ouais. Mais ça va être la même chose, c'est sûr.
Oui, je pense que, comme tu l'as dit, c'est que... Même Microsoft, là, c'est ce qu'ils essayent de faire aussi un petit peu. Enfin, en allant toujours à l'E3. Mais quand tu regardes Microsoft, il y a quelques jours, ils ont fait leur X0 2018. Où ils ont annoncé le rachat d'Obsidian et de InXile. Donc tu vois, aujourd'hui tout le monde essaie de tirer un petit peu la couverture. On voit que c'est Nintendo en fait les premiers qui ont commencé en disant ouais nous les conférences E3.
Mais ils ont raison.
Bien sûr. Comme ça on parlera que de eux à ce moment-là. Alors que là quand il y a les conférences E3, on le voit d'ailleurs avec les journalistes, avec ceux qui font des podcasts comme nous, qui font des vidéos, qui font des débriefings. C'est un petit peu compliqué de parler de l'E3 en une vidéo ou bien en un seul podcast. Alors, Electronic Arts, c'était nul, ils ont fait ci, ils ont fait ça, après on passe à Microsoft, etc. Alors que là, imaginez...
Non, moi je trouve pas ça compliqué, c'est tellement nul l'E3 que j'ai pas plus besoin d'en parler.
Ouais. Pour les gens qui sont là, qui analysent genre toutes les conférences et tout, c'est un petit peu chiant. À la fin de l'E3, les mecs, ils en peuvent plus, enfin surtout les journalistes sur place.
Il y a un truc qui est extrêmement important et qui a beaucoup changé à mon avis, c'est que pour les marques maintenant, ce qui est important, c'est la qualité de la couverture médiatique et la quantité de cette couverture médiatique. Forcément, quand t'as tout qui arrive au même moment, les médias, ils doivent faire des choix parce qu'ils peuvent pas tout traiter au même moment. Et le fait de dire, bon, bah, nous, on va shooter plus tard à un endroit où, a priori, y a personne qui va faire d'annonce parce qu'ils vont nous laisser, évidemment, la primeur sur ces choses-là. Là, tu sais que tu vas maximiser ta couverture médiatique parce que les gens n'auront que ça à parler. Et donc forcément, bah, ça permet déjà de contrôler qui va venir à ton événement et qui va en parler en long, en large et en travers pendant facile une semaine, tu vois. C'est un truc que l'E3 n'est plus capable de garantir parce que ça foisonne tellement de partout qu'il y a trop de choses, en fait.
Et moi, je pense que Sony, ils veulent vraiment avoir la mainmise vraiment aussi, comme t'as dit, sur tout ce qui est l'aspect communication et de pouvoir le faire à des moments clés où forcément l'actu laisse pas penser qu'il va avoir de grandes annonces. Et du coup, ça permet d'avoir des temps de communication sur des temps morts.
Ouais, bah, en espérant que ça soit plus passionnant que Nintendo Direct. Hein.
Ah, mais Nintendo, dis pas ça, il y a Edwin qui regarde les bon, Nintendo Direct sur Smash Bros.
Écoutez, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, je vous propose qu'on s'arrête là. Ben, peut-être
Non, c'est bon.
Ok. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Salut.
Bye.